Chapitre 5. L'île pour de vrai. Sentant que Peter serait bientôt de retour, l'île s'était remise à vivre. Certes, il serait plus correct de dire qu'elle s'était remise à vivre, mais avoir est plus actif, et Peter avait un faible pour cet auxiliaire. Ordinairement, la vie sur l'île s'écoule tranquillement pendant ses absences. Les fées allongent leur grasse matinée d'une heure, les animaux s'occupent de leurs petits, les peaux-rouges festoient copieusement pendant 6 jours et 6 nuits. Et si les pirates viennent à rencontrer les garçons perdus, les uns se contentent de mordre les pouces aux autres et réciproquement. Mais à l'arrivée de Peter, qui hait l'apathie, tout le monde reprend le collier. Si maintenant vous collez votre oreille contre le sol, vous entendrez toute l'île bouillonner de vie. Ce soir-là, les principales forces de l'île étaient disposées comme suit. Les garçons perdus étaient à la recherche de Peter, les pirates à la recherche des garçons perdus, les peaux-rouges cherchaient les pirates et les bêtes sauvages les peaux-rouges. Tous tournaient autour de l'île, mais sans jamais se rencontrer, car ils se déplaçaient à la même allure. Tous voulaient du sang, sauf les garçons à qui cela ne déplaisait pas d'ordinaire, mais qui, ce soir-là, attendaient leur capitaine. Le nombre des garçons vivant dans l'île peut varier, évidemment, selon qu'il leur arrive d'être tués ou bien d'autres choses. Dès qu'ils semblent avoir grandi, ce qui est contraire au règlement, Peter les supprime. Actuellement, ils sont 6, en comptant les jumeaux pour une paire. Faisons semblant de nous cacher entre les plants de canne à sucre et regardons-les se glisser furtivement l'un derrière l'autre, la main sur le manche de leur poignard. Peter leur interdit de chercher à lui ressembler. Aussi portent-ils des peaux d'ours qu'ils ont tuées de leurs propres mains, si bien qu'ils sont tout ronds et pelucheux et qu'ils roulent quand ils tombent. Cela leur a du moins appris à avoir le pied sûr. Celui qui marche en tête, c'est la guigne, non le moins hardi, mais le plus malchanceux de toute cette noble équipe. Il a manqué bon nombre d'aventures, car les grands moments surviennent toujours quand il a le dos tourné. Par exemple, tout est calme, la guigne en profite pour aller ramasser du bois sec. Quand il revient, les camarades en sont déjà nettoyés les dernières traces de sang. Cette constante déveine a laissé sur son visage un air de mélancolie, mais au lieu de lui écrire le caractère, elle l'a rendu plus doux, et c'est certainement le plus modeste des garçons. Pauvre la guigne, cette nuit, il y a du danger dans l'air pour toi. Ne te laisse pas entraîner dans une aventure qui pourrait te plonger dans l'affliction la plus profonde. Sache, la guigne, que la fée Clochette, résolue à commettre un méfait, recherche l'instrument de sa vengeance et qu'elle te considère comme le plus facile à tromper des garçons.
Prends garde à Clochette.
Plût au ciel qu'il pût nous entendre. Malheureusement, nous ne sommes pas réellement dans l'île.
Et la guigne passe son chemin en se rongeant les ongles. En se rongeant les doigts. Ensuite vient Bonzig, débonnaire et plein d'entrain, suivi de La Plume, qui taille des sifflets dans le bois et danse avec extase sur ses propres airs. C'est le plus vaniteux de tous les garçons. Il croit avoir gardé des souvenirs du temps où il n'était pas encore perdu et des us et coutumes de là-bas, ce qui a donné à son nez une pointe agressive. Le frisé arrive le quatrième. Il a dû si souvent se dénoncer quand Peter commande sévèrement « celui qui a fait cela un pas en avant » qu'à présent il s'avance machinalement, fautif ou pas. Enfin viennent les jumeaux, impossible à décrire, car nous sommes sûrs de nous tromper et de décrire l'un en parlant de l'autre. Peter n'a jamais su ce qu'étaient ces jumeaux, et comme la bande n'a pas le droit de savoir des choses que lui-même ignore, les jumeaux n'ont qu'une vague idée de ce qu'ils sont et s'efforcent de donner satisfaction en se tenant l'un contre l'autre d'un air qui implore le pardon. Les garçons s'évanouissent dans l'ombre et au bout d'un moment, mais d'un moment très court, car tout va très vite dans l'île, surviennent les pirates à l'affût. On les entend avant de les voir, car ils chantent toujours le même horrible refrain.
« Larguerri, yo-ho, iseo, nous allons piratant, et si un coup de feu nous sépare, nous sommes sûrs de nous trouver réunis en enfer. »
On que ne se vit plus affreuse brochette de Lascar, pendouillante au gibet. Précédant les autres de quelques pas, la tête ballon de ci, de là, à l'écoute du sol, des pièces de 8 en guise de boucle d'oreille, ses grands bras nus, voici le bel Italien Checo, qui inscrivit son nom en lettres de sang sur le dos du gouverneur de la prison de Gao. Ce géant noir qui le suit a reçu plus d'un an depuis qu'il a renoncé à celui dont se servent encore les mères africaines pour effrayer leurs enfants sur les rives du Kijomo. Et voilà Bill le truand, pas un pouce de son corps qui ne soit tatoué, ce même Bill le truand qui, sur le Walrus, reçut 6 douzaines de coups de verge des mains de Flint avant de lui céder son sac de lingots. Voici encore Coxon, le soi-disant frère de Black Murphy, mais le fait n'a jamais été prouvé.
et maître Starkey, jadis concierge d'un collège privé, est toujours délicat dans ses façons de donner la mort. Et Œil de Bœuf et Smee, le maître d'équipage irlandais, homme d'un génie bizarre, qui poignarde pour ainsi dire sans offense, et se trouve être le seul non-conformiste de la bande accrochée. Et Plat de Nouilles qui a les mains sens devant derrière, et Robert Mullins et Alf Masson, et maint d'autres écumeurs de sinistre renommée dans la mer des Antilles.